Sotrevoix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui dans les autres voies de la presse, nous sommes dimanche 10 août, nous sommes aux Résistantes en Normandie, auquel nous avons participé donc à Radio Résistante, et nous avons l'occasion de rencontrer Sarah du média Lisbeth. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Donc Lisbeth, c'est un média en ligne, adhérent au syndicat de la presse Pas Pareil. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter un petit peu l'origine de la création de Lisbeth?
Oui, alors Lisbeth à la base c'est une newsletter qui a été créée en 2020. Donc c'est moi qui l'ai créé toute seule, j'avais envie de lancer un média féministe et de voir un petit peu si ça allait prendre ou pas. Je voulais raconter les initiatives aux quatre coins de la France. Et étant donné que je suis bretonne, en fait, ça m'intéressait aussi de raconter ce qui se passe en dehors des grandes villes et toutes les initiatives féministes qu'il peut y avoir en dehors des grandes agglomérations. Et donc ça a bien pris, assez vite il y a eu une petite communauté qui s'est formée autour du média. Et donc rapidement, en 2023, on a eu la bourse émergence, donc c'est une subvention du ministère de la Culture pour les jeunes médias, qui nous a permis de refaire faire tout le site web, l'identité graphique, visuelle. Et donc là, depuis octobre 2024, on a un site web avec tous les reportages dessus, la possibilité de s'inscrire à la newsletter, de faire des dons, parce que du coup ça fonctionne sous modèle de dons. Et voilà, et maintenant, depuis un an, on est un comité éditorial d'une dizaine de membres, journalistes éparpillés un peu partout, quoi.
Lisbeth, c'est un journal féministe, dans
oui.
La rédaction ou dans les articles, on va dire la ligne éditoriale?
Dans tout ça, enfin, c'est féministe dans le sens où, enfin, on aborde les sujets depuis un prisme féministe, où on essaye un maximum en tout cas, et... des fois, c'est pas forcément le plus pertinent, ça dépend des sujets, mais en tout cas, l'essentiel de notre sujet est abordé avec un prisme féministe intersectionnel. Et après, dans notre façon, je pense aussi de fonctionner, de réfléchir aux sujets, aux enjeux, aux angles, on le fait avec un prisme féministe aussi.
Et ça veut dire que ce prisme, vous l'utilisez, enfin, vous l'avez dans le choix de chaque article déjà, dans le mode de rédaction qui a.
Oui, par exemple, en fait, on utilise l'écriture inclusive, parce que pour nous, ça nous semble évident, et puis on a aussi un lexique, enfin, en fait, ça, c'est assez chouette sur le site web, du coup, chaque terme un peu trop militant, typiquement intersectionnel, ou anticlassisme, ou antivalidisme, c'est surligné, et en fait, on a en passant la souris dessus, on peut avoir la définition, et il y a toute une page avec tous les lexiques, en fait, les définitions, pour que tout le monde puisse s'approprier un peu cet univers-là, parce que c'est pas forcément accessible, quoi.
Et vous êtes un média de proximité ou un média, on va dire, thématique, généraliste?
Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que j'ai un peu l'impression qu'on est un peu entre les deux. C'est comme, en fait, on est national, mais du coup, la plupart des médias nationaux sont basés à Paris, ont une couverture assez généraliste. Nous, c'est pas exactement ça, parce qu'en fait, on n'est pas grand public, mais on n'est pas non plus complètement de niche, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des personnes qui ont déjà un peu un pied dans les luttes au sens large, mais certaines personnes vont être plus vont avoir plus de connaissances sur, par exemple, les luttes LGBTQIA+, et beaucoup moins sur les luttes antispécistes, par exemple. Alors nous, on essaye d'aborder un peu toutes ces thématiques-là. Donc, ouais, voilà. Et après, de proximité, ça, je pense qu'on le travaille, on va être amené à le travailler de plus en plus, parce que du coup, le siège est à Brest, et on participe beaucoup à des événements sur place, des tables rondes, voilà.
Sur place, vous travaillez aussi, il y a d'autres médias indépendants, que ce soit des radios associatives ou une presse papier?
Ouais, alors en Bretagne, il y a quand même pas mal de radios indépendantes. Il y a le média aussi indépendant Splend, un média d'investigation en français-breton. Et du coup, alors jusqu'à présent, on n'a pas encore eu l'occasion de beaucoup travailler avec les médias sur place, mais je sais qu'il faut qu'on se rapproche. Avec Splend, on est invité à leurs 5 ans, par exemple. Enfin, on est en contact, quoi, mais je dirais potentiellement ça pourrait arriver qu'il puisse y avoir des projets communs, mais c'est pas. Ou avec. Comment ça s'appelle ? Une radio sur Brest dont j'ai oublié le nom parce qu'il fait chaud. Je sais plus, il fallait qu'on se voit cet été, mais on n'a pas réussi. Enfin bon.
Parce que quand vous couvrez des événements qui soient par exemple sur Brest, ça veut dire que vous faites des rencontres, vous faites des interviews et après il y a des articles qui sont publiés à plus ou moins longue échéance sur le site de Lisbeth.
Oui, voilà. Après, bah, par exemple, alors après, enfin, les événements dont je parlais, ça pouvait être simplement animer une table ronde à l'occasion de la semaine des fiertés, fin du mois des fiertés. Donc il n'y a pas forcément d'article derrière. Mais après, par contre, on couvre beaucoup. Enfin, il y a quand même une grosse partie du contenu qui vient d'initiatives en Bretagne, dans le centre Bretagne aussi. Enfin, voilà, on est plus proche de là. Donc,
Au sein du syndicat de la presse, pas pareil. On vous a vu aussi travailler sur un dossier collectif sur Bolloré. Tu peux nous expliquer un petit peu comment vous est venue l'idée et comment est-ce que vous avez travaillé sur ce travail collectif?
Oui. Alors, du coup, c'est vrai que c'est un dossier commun qui est sorti donc sur Lisbeth, l'âge de fer, silence et la brèche. Et en fait, donc nous on s'est rajouté, c'est-à-dire que moi je suis sur la mailing list du SPPP, j'avais vu passer, je crois que c'était Tatiana de Silence qui disait qu'ils allaient travailler sur Bolloré, et on s'est dit bah tiens, ça nous intéresse, et du coup on les a contactés et ça s'est fait un peu comme ça. Et c'était assez nouveau, je pense, pour nous tous, parce que travailler à 4 médias, c'est pas anodin. Et puis nous on était le seul média en ligne en plus, donc du coup on a fallu qu'on réfléchisse un peu à comment articuler tout ça. Mais c'était hyper intéressant, puis c'était l'occasion aussi de mutualiser des forces, parce qu'au final, petit média indépendant, il dit aussi des fois petit moyen, et donc du coup, c'était hyper intéressant, on n'a pas les mêmes ancrages, on n'a pas de fins territoriaux, on n'a pas les mêmes... donc voilà.
Et comment ça s'est fait ce travail? Vous vous êtes partagé des sujets, vous avez fait une rédaction commune, une publication commune?
Si je me rappelle bien, on a commencé à définir plein d'axes en fait, genre ok, Bolloré par quel bout on prend? Et parce que du coup c'est tentaculaire, donc voilà, et on s'est un peu répartis après en fonction de qui voulait faire quoi. Nous à Lisbeth, c'était moi qui avais fait le sujet, j'avais bossé sur l'accaparement des esprits en fait par les médias sous Bolloré, la façon dont en fait même tout le langage d'extrême droite se propage sur les médias plus mainstream, etc. Comment est-ce que ça peut influencer aussi les esprits, enfin... Et du coup j'avais interviewé notamment le collectif Sleeping Giants, et du coup ça s'est paru sur Silence. Mais en fait, ça s'est fait assez facilement, c'est-à-dire qu'on s'est dit, qui a envie de bosser sur quoi? Il n'y avait pas trop de contraintes. Certaines personnes étaient motivées pour faire plusieurs articles, d'autres n'avaient pas forcément le temps ou la possibilité. Et du coup, voilà, et on s'est partagé les articles en fonction. Silence était hyper intéressé par notre proposition d'article, donc on a fait un échange. Eux, à Silence, ils ont publié sur Lisbeth l'accaparement des terres et des corps à Socfin, en fait, au Cameroun. Donc c'est à lire en ligne, voilà. Je crois que ça répond à la question. Et puis on a fait une carte commune aussi, du coup Bolloré, pour récapituler en fait tout ce qu'il possède, quoi.
Et vous travaillez souvent sur dossiers ou c'est vraiment des articles ponctuels?
À Lisbeth, on en fait quand même souvent. Parce qu'en fait, on fait des articles de fond, mais c'est vrai que c'est très frustrant de des fois se mettre des limites. Et du coup, par exemple, en 2023, on avait fait toute une série sur les luttes antifascistes en France. On a interviewé par exemple la Horde pour parler de vraiment spécifiquement la lutte contre l'extrême droite en ligne. On a interviewé une association qui vient d'aide aux personnes migrantes à Besançon. On a interviewé une association anti-fémonationaliste, enfin féministe antifa, enfin voilà, on a essayé de décliner en fait en plusieurs axes quel visage au pluriel en fait prend la lutte antifa. Et après, cette année, on a fait un court dossier de deux séries sur la grossophobie, parce que pareil, en fait, il y avait beaucoup de choses à dire. Sur l'inceste aussi, on a fait deux dossiers, enfin de ces deux articles.
Quand tu parles du dossier sur l'extrême droite, donc à part un des sujets que tu as abordé, vous restez généraliste ou vraiment, quand vous allez parler de l'extrême droite, les deux ou trois épisodes, si vous allez le voir, soit, les impacts, les répercussions sur les femmes, ou est-ce que c'est justement en termes de rédaction où l'approche est totalement différente?
Là, pour ce dossier-là, on a vraiment consacré un article à la question des femmes et des minorités, donc c'était sur le fémonationalisme. On a parlé d'autres minorités, enfin celui sur l'immigration, on a parlé des personnes migrantes, notamment des jeunes mineurs isolés. Mais du coup, en fait, on a fait, en général, la première partie des articles, c'est les enjeux, et en fait, ça brosse vraiment. Par exemple, pour le premier article, on a fait tout l'historique en fait de la création du Front National, des origines. Pour l'article sur l'antisémitisme, on a interviewé un formateur sur l'antisémitisme en Bretagne. Et toute la première partie, on est revenu en fait sur les origines de l'antisémitisme, la construction, son évolution jusqu'à aujourd'hui, par comment est-ce qu'elle se... Il y a une façon très sournoise en fait dont se diffuse l'antisémitisme. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question.
En partie, parce que je voulais savoir si c'était l'approche en elle-même, où est-ce qu'elle se différenciait, entre guillemets, d'un média classique ou indépendant, dans ce travail sur l'extrême droite.
Ça, je sais pas. J'avoue, j'ai pas trop réfléchi à cette question.
Avec une approche justement féministe, est-ce que c'était sur la rédaction ou alors est-ce que chaque sujet voyait un peu les conséquences, les répercussions, les agissements qui pouvaient y avoir sur les femmes, par exemple?
Oui, chaque sujet n'abordait pas forcément les répercussions sur les femmes, même si à chaque fois on fait toujours une partie sur les minorités, par exemple sur l'immigration. Les personnes qu'on a interviewées nous précisaient bien que pour les jeunes filles, en fait, en parcours d'immigration, c'est totalement différent. Enfin, donc on a toujours ça en fait en ligne de mire dans nos articles. Mais après, on reste pas forcément ultra focalisé dessus en fait, parce qu'au final. La lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre, en fait, elle rejoint énormément d'autres aspects et du coup, en fait,
Et vous avez quel rythme de parution ? Il y a un article par jour, par semaine, par mois, un dossier ?
Tous les 15 jours, c'est 15 hebdomadaires.
15 hebdomadaires. Donc 15 hebdomadaires, c'est quoi ? Ça veut dire que tous les 15 jours, il y a un article ? Ou est-ce qu'il y a une publication de plusieurs articles, comme si c'était la parution d'un journal, par exemple ?
C'est un article tous les 15 jours, sachant que c'est plutôt du long format, donc... Et en fait, on n'a pas les moyens humains pour produire davantage, mais après, on joue cette carte aussi de, du contenu de qualité avant tout et avant la quantité. Et après, depuis début d'année aussi, on fait une newsletter mensuelle qu'on a appelée newsletter supplément, ou newsletter extra. Où, en fait, souvent, ça va être une extension d'un article paru. En fait, on donne la parole encore à d'autres personnes interviewées ou à un autre collectif, ou pour aller plus loin, c'est un autre éclairage, quoi.
Et est-ce que vous êtes plusieurs à travailler sur cet article 15 hebdomadaires, ou est-ce que chacun, chacune a un article, un dossier de fond sur lequel il est en train de travailler et qui sera publié dans un mois ? Voilà, est-ce que c'est vraiment chacun, chacune son article, ou est-ce qu'il y a une rédaction collective ?
Alors jusqu'à présent, c'est moi qui ai écrit quasiment tous les articles, et en fait du coup la clé, en fait, quand t'as pas beaucoup de moyens, c'est l'anticipation, quoi. Donc, moi, j'anticipe énormément, même sur l'actualité. Alors, il y a des choses qui peuvent pas s'anticiper. Mais de toute façon, c'est sûr qu'on va pas concurrencer un gros média sur l'actualité chaude. Enfin, du coup, on se démarque aussi là-dessus en faisant du long format, quoi. Enfin, ou des articles vraiment fouillés, où on prend le temps d'analyser plein de choses. Et du coup, donc là, les articles de septembre, octobre, on sait déjà ce que ce sera. Après, on se laisse aussi des trous, en fait, pour la surprise, et en fait, on est flexible, en fait. S'il y a quelque chose qui doit passer avant, ça passe avant. Mais voilà, et à partir de septembre, il y a Déborah, une des membres du comité, qui va davantage m'épauler sur Lisbeth et prendre plus en charge l'éditorial, parce qu'on a des gros projets qui arrivent en 2026, et du coup, je pourrais pas tout porter.
Quand tu parles de flexibilité, justement, dans cette programmation de parution d'articles, est-ce que c'est pour vous permettre de réagir à l'actualité, si vous pensez qu'il y a vraiment une réaction, une nécessité d'une réaction ?
Oui.
Ça vous est déjà arrivé ?
Alors là, comme ça, pas forcément en urgence. Après, l'actualité, en fait, elle s'anticipe aussi assez facilement, je dirais. Enfin, sur certaines choses, il y a des choses. Mars, on sait qu'il y a le 8 mars. En novembre, il y a des grosses dates aussi. En fait, dans le calendrier féministe intersectionnel, en fait, queer, il y a plein de dates qui s'anticipent facilement. Et après, c'est jamais arrivé qu'on se dise 15 jours avant, oh, mince, celui-là, non, on arrête parce qu'il faut absolument faire passer autre chose avant. Ça, jusqu'à présent, non. Et on arrive toujours à accorder nos articles avec de l'actualité chaude en plus.
Et j'ai une dernière petite question, enfin, ce sera peut-être pas la dernière, on verra. Pourquoi ce choix de nom Lisbeth ?
Oui, ça c'est drôle parce que pas tout le monde demande. C'est en référence à Lisbeth Salander. Et alors en fait, l'histoire un peu drôle, c'est qu'à la base, le nom d'origine, ça devait être Némésis. Sauf que pour des raisons évidentes, du coup, c'est pas ça. Parce que du coup, il y a peut-être des gens qui savent pas, mais Némésis, c'est le nom d'un collectif fasciste, en fait, de fémonationalistes, qui a commencé à se faire connaître fin 2020 et fin 2019. Et à l'époque, c'était là où, en fait, on s'apprêtait à la newsletter, on l'a lancé en 2020, en fait, on réfléchissait encore sur le nom. Moi j'ai un gros crush sur Lisbeth Salander en fait depuis pas mal d'années.
Donc pour préciser, Lisbeth Salander
Oui, c'est le personnage de Millennium, qui est une série de bouquins écrits par Stieg Larsson, qui était journaliste, militant communiste antifa, qui a beaucoup travaillé sur l'extrême droite d'ailleurs de son vivant, et ça lui a valu pas mal de menaces de mort. Et voilà, Elisabeth Salander, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui a la croisée de beaucoup d'oppressions. Elle subit des violences intrafamiliales, elle subit ensuite des violences judiciaires, policières, psychiatriques, enfin...
un viol également.
Oui, bah, des violences patriarcales au sens large, quoi. Et même plus d'un viol. Bah, d'ailleurs, gros trigger warning si vous lisez les bouquins et regardez les films. Et en parlant des films, je recommande plutôt la version suédoise parce que c'est
je te rejoins.
Voilà.
Donc, voilà l'origine du nom Lisbeth.
Oui.
Bah alors pour les auditeuristes qui voudraient rejoindre l'équipe éditoriale ou lire vos articles ou faire un don, faut passer par internet, sauf s'ils ont l'occasion de vous croiser comme là pendant les résistantes sur certains événements.
Oui, voilà, exactement. Ouais.
Donc c'est quoi, lisbeth.fr?
lisbethmedia.com.
Merci Sarah.
Merci beaucoup.
Bonne fin de journée.
Merci.
Ils sont très voix de la presse, c'est la meilleure émission de toute la vie. Du monde entier.
Merci papa.
Merci papa.
Hey, salut Sacha.
Salut Jocelyn.
Ça me fait plaisir de te voir. C'est la première fois qu'on se retrouve comme ça devant des micros en tête à tête. La seule fois qu'on avait fait une interview pour les autres voix de la presse, c'était par téléphone.
Ouais.
Et on a même mis vachement longtemps avant de se rencontrer. Ça, c'est la force du SPPP aussi. On arrive à se rencontrer.
Ouais.
Allez Sacha, tu vas nous parler un peu de toi. Tu vas nous parler un peu de ce que tu fais. Donc là, voilà, c'est les assises du syndicat de la presse, pas pareil. Et donc, avec ton média, Foutoir, tu es adhérent de ce syndicat, de la presse pas pareil. Allez, rapidement, tu nous expliques un petit peu Foutoir, quand c'est né, à quelle occasion, et un peu son histoire.
Foutoir, c'est né en 2008. Alors, à l'époque, on était étudiants. C'est à l'époque où Sarkozy est devenu président de la République et, en fait, on a constaté qu'il y avait beaucoup de violence. Alors, on vient de Lyon. Donc, il faut savoir que Lyon, c'est quand même une ville assez bourgeoise. Où justement la violence sociale se ressentait pas mal. Voilà, donc c'est l'une des premières raisons pour laquelle on a créé ce journal, c'était aussi pour dénoncer la misère sociale qui nous faisait mal au cœur, les violences policières qu'on constatait. On était jeunes étudiants, on participait à pas mal de mouvements, et on avait envie de dénoncer ça. Et puis à côté de ça, on était quand même assez friands de bandes dessinées, notamment Flux Glacial. Je vais parler de Charlie Hebdo, mais de la période Choron, Cavana et pas de la nouvelle génération. Et on était assez fans de ça et on trouvait aussi que c'était un humour noir, un peu satirique, un peu trash, un peu potache, qui se perdait. Et justement, dans une ville de Lyon, qui était très bourgeoise, très coincée même. C'est assez drôle de provoquer un peu cette bourgeoisie et puis cette violence politique qu'il y avait autour de nous, grâce à nos dessins et nos articles qui étaient assez, pour nous, enfin... qui était assez satirique et assez vindicatif.
Et tu as lancé ça, donc, et qu'est-ce qui s'est passé? C'était un journal, donc
on va dire que c'était
journal...
plus à fanzine, en fait. Hein, on n'avait pas de formation, puis on avait un peu de main gauche, donc au départ, c'était vraiment bricolé, avec deux bouts de ficelle, beaucoup de fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe. Bon, voilà, on a appris sur le tard, mais on a quand même remarqué qu'on avait un impact sur nos lecteurs, et c'est ça qui nous a aussi donné envie de continuer, quoi.
Et ça a continué combien de temps, du coup, ce format-là pour Foutoir?
Alors, le fanzine, il a duré, on a sorti une dizaine de numéros sur un espace de 2 ans à peu près. Et après, on a eu quand même l'arrivée de gens plus professionnels qui sortaient déjà du milieu de l'édition et du journalisme. On a relancé un journal qui avait un numéro d'ISSN, qui a été édité pendant 6 mois en mensuel, avec un tirage entre 500 et 1000 exemplaires.
Et il y a eu une pause, un peu, dans Foutoir?
Ça a été un peu compliqué, oui.
Compliqué.
En fait, on était sous un format associatif et ça n'a pas marché, en fait.
D'accord, voilà.
Là, aujourd'hui, je suis un peu... j'ai changé de statut, je suis auto-entrepreneur et j'ai monté une petite maison d'édition.
Pour Foutoir, et donc ouais. Tu relances un petit peu l'édition au sein de Foutoir avec Babouin Dingo, dont le numéro 1 est paru il y a 3-4 mois.
Oula, ça fait un peu plus longtemps, là ça va faire un an qu'il est sorti,
déjà,
puis là
ouais,
je me bats pour... Alors Babouin Dingo, ouais, c'est un magazine de bande dessinée, voilà, qui est plus consacré sur la BD. Foutoir, après c'est vrai qu'on touche un peu à tout, donc tu peux retrouver il y a de l'humour noir, il y a de la satire, mais aussi un peu de science-fiction, il y a aussi un peu il y a un côté plasticien. On a aussi Pierre Lacotte qui est un expert au niveau de l'histoire de l'art, donc lui il réalise plus des BD qui tournent autour de l'art. On a aussi du photomontage un peu militant, enfin voilà. C'est assez, assez hétéroclite et c'est ce qui nous plaît. Quoi, voilà.
Du coup, ma question, c'était, je pense que quand vous aviez un format associatif, apparemment, ça n'a pas très, très bien fonctionné. Je ne sais pas, c'était des problèmes de conflit, des problèmes économiques
Surtout de conflit, ouais, souvent. Ouais, ouais. Et même politique aussi.
Et quelle est la différence pour toi, Manette, d'être en auto-entrepreneur
Ça m'embête.
Fonctionnement, tu es le seul chef à bord, entre guillemets.
C'est ça qui est embêtant, oui, actuellement. Oui. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même une vingtaine de personnes, de bénévoles, qui m'envoient soit des dessins, de la photographie, de temps en temps des articles. Mais moi, je fais un peu tout le reste, quoi. Donc tout ce qui est administratif, gestion du site internet. J'essaie aussi de créer du contenu. Et voilà, donc c'est vrai que je cherche du monde, si vous m'entendez.
Quand tu dis que création de contenu, c'est-à-dire il y a une création de visuels, de podcasts, ouais. De vidéos, c'est quoi?
C'est un peu, c'est tout, quoi. Donc je fais de la vidéo, j'écris des articles, je suis aussi illustrateur, je fais de la bande dessinée, enfin voilà, je fais aussi du fond de montage. Et j'essaie quand même de réagir à l'actualité, quoi.
D'accord. Du coup, pas à travers le journal, parce que Bamoanango, ça a déjà un peu plus d'un an.
Ouais. Sur le site internet. Il y a un site internet qui a été monté en 2015.
D'accord. Ouais. Le site internet, des réseaux sociaux, tu es très réactif à l'actualité, ou est-ce que tu t'accordes un temps de réflexion, de création de...
Alors, oui, le site nous permet de synthétiser une idée beaucoup plus vite qu'un article, quoi. Donc non, c'est vrai qu'on peut être assez réactif vis-à-vis du dessin. Après, j'ai des petits regrets par rapport au rédactionnel. Je souhaiterais quand même qu'on ait plus de contenu de ce côté-là, quoi. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dénoncer aujourd'hui et tout seul, c'est compliqué, quoi.
Quand tu travailles, du coup, quand tu réagis à l'actualité, c'est toi qui fais les dessins, c'est toi qui...
Non, heureusement, non. Pour ça, je suis bien entouré. On a une dizaine d'artistes à peu près, illustrateurs qui nous accompagnent, quoi, à foutoir.
Et ils sont principalement bénévoles, ils sont rémunérés.
Ouais, malheureusement, actuellement, ils sont bénévoles. Alors, j'ai réussi à rémunérer quelques artistes lors de l'apparition du Bamoanango, ou alors sinon, c'était un échange de bons procédés. Je me suis arrangé. Mais là, pour le moment, le site internet, c'est du bénévolat. Mais ce que je souhaiterais, c'est développer quand même un modèle économique qui me puisse au moins de les payer symboliquement, quoi.
Comment est-ce que tu penses pouvoir justement trouver ton équilibre économique?
En se diversifiant. Alors, on édite... on va essayer d'éditer quand même des magazines de manière plus récurrente. Et puis à côté, je fais un peu de papeterie. Donc, je fais des badges. On réalise des affiches, des cartes postales. Voilà, des petits goodies qui nous permettent quand même d'avoir un petit apport. Et je souhaite aussi, je suis en train de développer des abonnements en ligne, donc essayer de proposer quand même du contenu payant, mais quand même accessible pour tous, quoi, parce que c'est un abonnement à 18 €, donc 1,50 € par mois. Si les gens apprécient notre travail, voilà, je pense qu'ils peuvent nous soutenir de cette manière-là pour le moment, quoi.
Que je pense que tu es confronté au même problème que beaucoup des médias présents, c'est la diffusion. Donc on peut s'abonner à Foutoir. Ouais. Après, est-ce que tu as un réseau de diffusion? Est-ce que tu es diffusé en librairie, dans des maisons de la presse?
Alors actuellement, non, il n'y a plus de journaux papier. Mais on travaille encore avec une quinzaine de librairies dans la région Rhône-Alpes, notamment.
Et ça, c'est du démarchage librairie par librairie. C'est un travail qu'il faut porter.
Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, aujourd'hui, les libraires... Alors, il y a 10 ans, on avait une trentaine de librairies. Aujourd'hui, on n'en a plus que 15, quoi. Donc, c'est aussi parlant. Ils veulent plus s'embêter. Ils passent par des grosses structures. Et tant pis pour nous, quoi. Voilà, donc, c'est compliqué.
Et donc, Bamoanango, le numéro 1 qui est sorti il y a en gros un an.
Ouais.
Il a été tiré à combien
d'exemplaires? À 500 exemplaires.
500 exemplaires. Ouais. Et du coup, t'es arrivé à...
Alors au début, c'était compliqué, non, mais puis ce qui est marrant, et puis c'est au bout de 6 mois que ça a commencé à démarrer, quoi. Les gens ont commencé à s'intéresser au support. Et je suis assez content, on a quand même eu des bons retours, malgré, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de formation journalistique. Donc, malgré le côté un peu artisanal et un peu amateur, voilà, on a quand même des bons retours sur le support, quoi.
Et est-ce que tu as en prévision justement la suite, un numéro 2?
Alors en plus de ça, c'est qu'on a un petit peu bougé en Belgique, on a un petit peu bougé aussi dans le sud, on a rencontré pas de nouveaux artistes, et oui, j'espère surtout qu'on sorte un numéro 2, oui.
T'es pas déjà en train de travailler dessus? T'as pas quelques idées? T'as pas griffonné, gratouillé?
Pas encore vraiment, mais là j'ai réseauté surtout, et je pense qu'on va avoir un sacré contenu pour le prochain numéro, effectivement, ouais.
Mais il n'y a pas de date?
Non, c'est toujours le problème avec Foutoir pour le moment, qui est économique, hein, c'est lié à l'économie, quoi. Je ne peux pas m'engager sur...
Prochainement, un numéro 2.
Ouais.
Et justement, si on veut trouver Foutoir, on a compris qu'il n'y avait pas une diffusion forcément dans beaucoup de cases, beaucoup de librairies.
Sur Internet, il y a une rubrique où les lieux qui nous diffusent, et là vous retrouverez toutes les librairies, ou les lieux un peu alternatifs, dits alternatifs, qui nous diffusent, quoi.
quand même, il faudrait épeler foutoir.
Alors, foutoir, F-O-U-T-O-U. Donc, foutou, il faut savoir que c'est un plat africain. foutouart.fr.
Voilà, foutouart.fr. Voilà. Pour justement trouver le babouin dingo, on peut peut-être commander aussi des anciens numéros de foutoir.
Alors, ça, c'est plus compliqué. Non, malheureusement, on a eu un problème avec nos archivages numériques. Non, ouais, il y a eu un problème. Donc, les anciennes maquettes, on dit non, c'est. Voilà, la précarité, ça fait chier.
Allez hop, on va enchaîner avec un petit morceau. Boucan. Dans le Boucan, il y a un artiste que j'aime bien qui s'appelle Humbert, il habite vers Albi. Et là, Boucan, donc, bah, ils sont trois, ils ont fait un ou deux albums. Et là, on va écouter le titre « Ça va déborder », tiré de l'album « Déborder ». J'ai trouvé le bon bouton, je monte le son.
Ça va déborder, les passions sauvages. Ça va déborder, la pluie, les orages ne vont pas tarder, des torrents de boue. Ça va déborder, apprends à nager ou bien naviguer, les larmes des fous. Ça va déborder, des torrents de loups, de loups veulent affamer, apprends à nager. Ça va déborder.
Déborder, 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 dé
C'était les autres voix de la presse avec Sarah pour Lisbeth et Sacha pour Foutoir. À la semaine prochaine, d'ici là.
On va s'interroger ton stylo.